6h, 8h.
Matin première.
Il est 7h43. Bertrand Haine, l'école francophone est à un tournant de son histoire.
Oui, avec ce fameux pacte d'excellence dont on parle depuis ce matin, qui est en train, lentement, il faut bien le dire, de tracer son sillon. Et on peut qu'espérer qu'il atteigne ses objectifs, parce que sinon on va continuer à tourner. Et à un moment, on sera revenu à notre point de départ. On va d'ailleurs en reparler de ce point de départ, souvenez-vous. Ce sont les mauvais résultats de l'école francophone à l'étude internationale PISA. On est en dessous de la moyenne. Et en plus, il y a d'énormes différences entre les écoles et les élèves.
Du coup, le pacte d'excellence a essayé de remédier au problème, mais encore fallait-il trouver le problème,
hein. Faire le diagnostic, hein. Mettez deux profs autour d'une table, demandez-leur quel est le problème de l'école francophone, vous aurez trois avis, ajoutez un directeur, vous en aurez quatre, et ajoutez des parents, vous aurez une bagarre générale. C'est pour... je rigole, mais l'école est un sujet profondément politique, parce que ce qu'on attend de l'école, finalement, c'est ce qu'on attend de la société. Vous ne parviendrez pas à un consensus entre un chef d'entreprise, on a entendu les patrons, hein, dans Ecomatin, qui estiment que l'école doit avant tout préparer au marché du travail, et un militant d'une association gauche, par exemple, qui souhaite que l'école forme des esprits critiques, et en particulier critiques du tout au marché. De même, aucun accord n'est possible entre ceux qui estiment que l'école doit corriger les inégalités sociales et ceux qui estiment que ce n'est pas sa mission première. Ou entre ceux qui défendent le pluralisme des réseaux, la liberté de choix des parents, et puis ceux qui sont adeptes d'un réseau unique public. Et ce consensus impossible à trouver, il a débouché chez nous, en 40, 50 ans, il a fallu le temps, sur un système qui n'a jamais vraiment choisi sa voie, qui fait un peu de tout. L'école francophone, c'est un peu l'enfant d'une société francophone qui n'est pas vraiment parvenue depuis des années à faire société. Et finalement, c'est peut-être la seule chose qui met tout le monde d'accord, on l'entend ce matin depuis une heure, c'est que notre système n'est pas vraiment efficace.
Le pacte d'excellence est peut-être en train de changer tout ça, non ?
Oui, et on avait deux options, hein. Soit attendre une sorte de Gaulle pour l'école, de Gaulle francophone, un homme ou femme, d'ailleurs providentiel, qui aurait tracé la route, sa vision, qui aurait tout changé, on attend toujours. Ou alors mettre ceux qui font l'école aujourd'hui, ceux qui représentent en tout cas les principaux acteurs de l'école, autour de ce constat et se mettre des objectifs communs. Et ça, ça a été le projet du pacte d'excellence. Évidemment, tous ces acteurs avaient des attentes très différentes, ce qui a débouché sur un texte touffu, complexe, un processus lent qui ne passionne pas vraiment les foules, mais qui est important parce qu'il fallait passer par là, il fallait passer par la concertation côté francophone. Deux chiffres, hein, pour ceux qui ne sont pas convaincus qu'il fallait aujourd'hui accepter ce changement massif, c'est trois ans, c'est la différence de niveau entre les élèves les plus favorisés et défavorisés socialement, et ça c'est ce que montre l'étude de PISA, avec la France et la Hongrie, on est les pires en Europe. Et puis un autre chiffre, moins souvent cité, que j'ai trouvé en baladant dans une grande étude internationale sur la santé des 11-15 ans, c'est l'étude HSBC, et ce chiffre c'est 6% des filles de 15 ans interrogées dans cette étude disent aimer beaucoup l'école, les garçons c'est 4% seulement, et vous savez quoi? On est tout dernier, tout en dessous d'une longue liste de pays développés. En Flandre, c'est 16%. Vous allez me dire, c'est pas énorme non plus. C'est ceux qui aiment beaucoup l'école, hein. Donc, c'est ceux qui vraiment se disent, voilà, avoir une affinité.
Des fanatiques.
Qui kiffent l'école. Ouais, on peut le dire comme ça. En Autriche, c'est 32%. En Arménie, 68%. Bon, là, ils sont peut-être venus avec, il y avait un directeur derrière l'élève au moment de répondre, je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que chez nous, on a quand même un problème. Et c'est peut-être un chantier un peu, il y a quand même des choses qui sont faites, mais un peu oubliées par les adultes aujourd'hui. C'est comment rendre l'école agréable pour les enfants, pas seulement efficace, exigeante, c'est important de relever le niveau, mais aussi bienveillante et inspirante.
Voilà, c'est le témoignage d'un jeune élève, hein, qu'on avait tout à l'heure et qui demandait des choses plus adaptées à l'époque d'aujourd'hui, plus d'informatique, etc. Merci beaucoup Bertrand Haine. On va poursuivre ce débat dans un instant avec Marie-Martine Schins, mais en attendant, on part au centre RTBF Mobile Info avec vous Jean-Marc Strel. Ça se passe comment à 7h47?
Il y a toujours quelques ralentissements observés un peu partout, hein, notamment dans les zones de chantier, et puis suite à un accident, notamment sur le 40 et sur la chapelle Liège autour de Churat. J'apprends en instant que la chaussée est dégagée, c'est une bonne nouvelle, même s'il y a tout de même 20 minutes de file en direction de Liège. Sur le 411 Luxembourg-Namur, il y a ce chantier entre Stockheim et Sterpenich, 14 km de file, une heure perdue en direction de Luxembourg. Des ralentissements classiques vers Bruxelles, le 411 de Namur à Overijse jusqu'à Auderghem, le 40 de Liège entre Everlé et Woluwe-Saint-Étienne, le 429 aussi venant de tourner entre Lembeke et Halle. Et puis en ce qui concerne le ring de Bruxelles, en extérieur, c'est un peu plus chargé que tout à l'heure, avec du monde entre Waterloo et Terveren vers Zaventem, entre Strombeek et Wemel vers Grand Bigard, et en circulation intérieure entre Halle et Bercel, et entre Grand Bigard et Grimbergen vers Zaventem.
6h-8h
Matin première.